1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Distinguished delegate, dear guests, colleagues, it is a...
Chers délégués, chers amis, nous allons démarrer nos travaux, si vous le voulez bien, de cette séance, donc de l'APM, et nous allons démarrer avec une séance qui est intitulée donc la question des genres dans l'espace euroméditerranéen et des pays du Golfe, perspective après l'époque post-pandémie. Vous avez la parole, Pedro. Merci beaucoup, Sergio. Je vais parler en portugais, si vous le voulez bien.
C'est un plaisir et un honneur de pouvoir vous recevoir dans la maison de la démocratie du Portugal. Je me sens également privilégié d'être un homme qui va modérer une séance de cette importante session inaugurale du Forum des femmes parlementaires de l'APM. Et ce rôle, un combat parlementaire, qu'il soit homme ou femme, dans la présente séance, les qualités des genres de la Méditerranée avec des perspectives post-pandémiques. Un thème central pour nos activités présentes et futures. Depuis le début de la pandémie, les femmes ont joué un rôle significatif dans la lutte contre la Covid-19, principalement dans le secteur de la santé et aussi au niveau familial. Ce sont les femmes qui ont les plus grandes idées avec l'enseignement à distance de leurs enfants et leurs tâches domestiques. Ce sont les femmes qui ont senti les plus grandes difficultés économiques étant donné que ce sont elles qui ont été les plus affectées par le chômage. Il faut souligner que la violence contre les femmes a augmenté dans le contexte de l'isolement sociale de la pandémie Covid-19. Même s'il y a des différences substantielles entre pays et zones du globe, aucune nation ne peut affirmer d'avoir atteint la pleine égalité de genre. Conséquemment, malgré ce qui s'est passé ce siècle, les femmes font encore face à d'énormes défis. Et il faut dire, elles font la moitié de la population mondiale, mais bon nombre ont encore sont encore discriminées au travail et elles sont sous-représentées dans la plupart des organes de représentation. Dans bon nombre de professions, elles ont des salaires inférieurs à ceux des hommes et elles ont davantage de tendance à occuper des emplois précaires. Et elles abandonnent plutôt l'école que les hommes. La violence contre les femmes est une question centrale au niveau international. Aucune nation ne semble être immunisée contre cela. En conformité avec les données de l'Organisation mondiale de santé, femme sur trois a déjà eu des problèmes de violence domestique. La discrimination et la violence sont enracinés dans des stéréotypes de genre. Et certaines femmes font face à des mariages forcés ou précoces et des mutilations génitales. Les études nous empêchent les femmes de jouir des mêmes privilèges que les hommes. Malgré qu'actuellement existent des femmes qui sont davantage élues dans les parlements Les progrès sont notables, mais ce n'est pas encore suffisant. Les parlements sont dominés par les hommes et certains n'ont même pas de représentation de femmes. Même dans les femmes candidates aux élections font face à d'innombrables défis, à des offenses culturelles, l'équilibre entre la vie privée et ou familière ou politique, l'obtention de l'appui des partis politiques et l'obtention de financement pour la campagne. Bon nombre font également face à la violence, au harcèlement sexuel et à la discrimination sociale. Bon nombre de femmes peuvent être dissuadées de concourir à certaines charges. Mes chers collègues, les parlements doivent être des lieux où les droits humains doivent être considérés comme naturels, indépendamment du genre. Ils doivent également des lieux où le langage ou des comportements sexistes ne doivent pas être tolérés. Une gouvernance et des lois inclusives sont essentielles pour assurer la participation et le leadership des femmes pour répondre à la COVID-19. C'est pourquoi l'emploi durable et l'entrepreneurship sont des plus importants pour les politiques sociales. Les nouvelles politiques doivent préserver les PME des femmes et assurer leur durabilité à travers de l'accès à la technologie, formation, marché et financement institutionnel et innovateur. Et pour finir, la garantie de systèmes de santé inclusifs, de qualité et durable, et des services d'appui aux victimes de violences basées sur le genre doivent garantir l'intégrité physique et socio-économique des femmes. Ces services de santé sont indispensables, de même que les services de santé à la maternité. Les crimes de violence domestique doivent être considérés comme un crime public, c'est-à-dire faisant que la victime doit présenter une plainte pour que les autorités puissent initier une enquête. Je suis convaincue que le Forum des femmes parlementaires abordera également toutes ces questions et présentera des solutions concrètes. Je vous remercie de votre attention. Nous allons maintenant commencer les présentations.
Tout d'abord, nous allons entendre donc un discours du représentant du Monténégro. Et donc, il est un membre de la délégation qui sera donc représenté. Madame Mislosava, vous avez la parole, s'il vous plaît. Voilà, si vous voulez bien vous donner la peine de commencer. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Monsieur Roch, Monsieur Piazzi, je m'appelle Mislava Palic et donc je fais partie du Parlement du Monténégro. Et donc Monsieur Milošević n'était pas en mesure de nous accompagner aujourd'hui et donc c'est moi qui vais lire son discours, si vous me le permettez. Et donc j'aimerais dire, donc au nom du Parlement du Monténégro, j'aimerais donc vous remercier pour l'invitation qui nous a été adressée et pour la réception que nous avons eue et pour la nécessité, le besoin d'avoir un meilleur futur et en ce qui concerne l'éducation par rapport au processus démocratique et aussi avoir un plaidoyer donc pour ces nouvelles directions pour les futures générations qui sont empreintes de respect par rapport aux institutions. Et en tant que représentant du Parlement du Monténégro depuis 20 ans, j'aimerais donc montrer quelle est la satisfaction que nous avons à ce niveau et dire comment l'APM a toujours été importante à ce niveau. Mais il est important de voir comment le Monténégro donc fait partie de ces différentes questions, et nous avons vu comment nous voulons ne pas perdre le train du progrès, et ceci est très important par rapport à la question de l'égalité des genres, avec l'importance des femmes dans la société civile qui ont de plus en plus des postes importants et qui est en fait la confirmation d'un grand changement pour lequel il faut organiser un débat de société, et donc avec comme donc objectif aussi de prendre en considération les réfugiés, mais aussi la politique des genres dans notre pays, et qui est tout à fait deux choses tout à fait distinctes. Et j'aimerais aussi donc parler donc pour au nom du Parlement du Monténégro, et donc depuis le premier trimestre, nous avons en fait des membres femmes de tous les partis politiques pour la première fois dans notre Parlement. Et donc ceci est important, et nous avons donc pu ainsi avoir un parlement donc composé de femmes aussi, quelle que soit la couleur politique, et ceci est important à ce niveau. Nous voyons donc comment nous avons donc la possibilité d'avoir à ce niveau des personnes, et une fois de plus, Excellence, c'est en fait, nous aimerions donc vous remercier et vous féliciter donc par rapport à ces réformes parlementaires, et je vous souhaite tout le succès escompté à ce niveau. Donc par rapport à ces différentes questions, nous sommes très importants par rapport à l'Assemblée dans la Méditerranée, et donc nous voyons donc au nom du Parlement du Monténégro que nous vous remercions infiniment pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, madame, d'avoir représenté cette parlementaire ici à Lisbonne.
Ministre marocaine de la solidarité, de Hawa Triff Ayar. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci pour être avec
Merci.
Nous.
Merci beaucoup. Honorable honorable Madame Joana Lima, chef de la délégation portugaise auprès de l'APM, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Sergio Piazzi, secrétaire général de l'APM, Mesdames et Messieurs, Excellence, Mesdames et Messieurs les députés, honorable assistance. Je voudrais tout d'abord remercier l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée pour l'aimable invitation qu'elle m'a adressée pour participer et intervenir à la session inaugurale du Forum parlementaire des femmes, notamment la séance sous le thème « L'égalité des sexes dans les pays euro-méditerranéens et du Golfe, perspective de l'ère post-pandémique ». Une thématique pour laquelle nous partageons les mêmes intérêts et aussi les mêmes défis. Je saisis cette occasion pour vous féliciter pour votre initiative relative à la création de ce forum des femmes parlementaires, également pour vos efforts continus dans le cadre de la protection des droits des femmes. Je tiens à saisir cette opportunité aussi pour féliciter et toutes les femmes de la Méditerranée, du Golfe et du monde pour leur action déterminante depuis le début de la pandémie à tous les fronts, que ce soit au niveau de la santé, l'enseignement, la sécurité ou dans les familles. Mesdames et messieurs, le Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a placé les droits des femmes marocaines au cœur des priorités majeur. Dans ce contexte, le domaine de la promotion des droits des femmes connaît depuis plus de deux décennies des avancées significatives, que ce soit au niveau législatif ou politique publique, visant notamment à améliorer les conditions des femmes. Ces avancées sont renforcées par le dernier décret qui date de juin 2022 et qui a permis la création de la Commission nationale de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de la femme. Mesdames et messieurs, dans la continuité des efforts entrepris par notre pays au niveau de la prise des mesures spécifiques visant à accélérer l'égalité effective entre les hommes et les femmes, notamment au niveau de la participation politique, dans une dynamique positive dans laquelle toutes les composantes de notre pays se sont impliquées, notamment les institutions constitutionnelles, gouvernementales, ainsi que les partis politiques, et où les femmes ont pu occuper les plus hauts postes de responsabilité dans les structures des partis politiques en tant que secrétaire général ou président d'un conseil national. Aussi, notre pays a adopté au cours de l'année 2021 un ensemble de lois organiques visant à accroître la représentation des femmes au niveau des collectivités territoriales et dans les chambres professionnelles, de même l'adoption de mesures spéciales provisoires dans le cadre de la révision des lois réglementaires relatives aux élections conformément à l'article 4 de la Convention a permis, à titre indicatif, d'aboutir à des résultats significatifs suite aux élections législatives générales, régionales et communales du 8 septembre 2021, où le pourcentage des femmes dans les conseils au niveau local a connu une évolution notable, significative même, de 35,6% en 2021 contre 4,5% en 2015. Aussi, l'effectif des femmes est passé de 81 à 96 en 2021 au niveau de la Chambre des représentants avec un pourcentage de 24,3%. Notre pays s'est doté aussi d'un ensemble de lois et de textes réglementaires qui visent à instaurer l'égalité et atteindre la parité entre les hommes et les femmes dans les hautes fonctions et postes de responsabilité dans l'administration, qui sont en général des affluents importants à l'entrée des femmes dans l'action politique. Ainsi, la loi 1920 relative aux sociétés actionnaires et responsabilités limitées a établi des quotas obligatoires visant plus de 30% des femmes dans les conseils d'administration d'ici 2024 et 40% d'ici 2027. La loi 51 a imposé aussi dans son article 27 à respecter le principe de la parité entre les hommes et les femmes, comme il est stipulé dans l'article 19 de la Constitution, et ce, dans les conseils d'administration des établissements et entreprises publiques. Par ailleurs, des femmes sont présidentes des conseils constitutionnels, notamment le Conseil national des droits de l'homme, la Cour des comptes, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Régler la caméra, ok. Le nouveau gouvernement compte également 6 femmes ministres avec des portefeuilles importants et je tiens à signaler aussi que la présidente d'une région du Maroc, la région Guilmi-Mouadnoun, est une femme. Elle est également la présidente de l'association des présidents des conseils des régions du Maroc. Aussi, 3 femmes ont été élues maires des grandes villes du Maroc, à savoir Rabat, Casablanca et Marrakech. Le Maroc est également engagé dans le plan régional et international pour la mise en œuvre des engagements internationaux au niveau des conventions internationales, notamment la CEDAW. Je voudrais à cette occasion signaler l'adhésion en avril 2022 du Maroc au protocole facultatif de la Convention de l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et qui rentrera en vigueur en juillet 2022. On me demande de régler la caméra, j'essaie, merci. Aussi, la délégation marocaine que j'ai eu l'honneur de présider a été félicitée par le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Nous avons présenté le rapport du Maroc récemment le 21 et 22 juin à Genève et nous avons été félicités, le Maroc a été félicité pour les avancées enregistrées dans le domaine de la promotion des droits des femmes. Conscient de l'importance et du renforcement de la résilience des femmes et la promotion de leurs conditions en temps de paix et en temps de conflits armés et dans la gestion des crises humanitaires, notamment sanitaires, le Royaume s'est engagé en toute responsabilité dans l'agenda onusien Femmes, Paix, Sécurité et a déployé tous les efforts et moyens pour l'application de la résolution internationale 1325 du Conseil de sécurité et ce à travers le lancement du premier plan d'action du Maroc pour le plan d'action national Femmes, Paix, Sécurité en mars 2022 et qui renforce le lien entre l'ODD 5 sur l'égalité des sexes et l'ODD 16 sur la paix et sécurité, qui renforce aussi le rôle des femmes en tant qu'actrices du changement et partenaires à parts égales à part égale dans le processus de prise de décision. Mesdames et messieurs, par ailleurs, dans le cadre du processus de renforcement de la situation de la femme et sa protection des différentes formes de violence, le Maroc a adopté la loi 103-13 en 2018 qui permet la protection des femmes contre les violences. Mesdames et messieurs, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des engagements de la déclaration de Marrakech lancée en mars 2020 sous la présidence effective de Son Altesse Royale, la princesse Lala Mariam, le Maroc a mis en place un protocole de protection des femmes contre les violences et ceci a permis de mettre en place un maillon important qui est le protocole territorial de la protection des femmes et nous avons signé en tant que ministère avec 44 associations des conventions de partenariat pour la mise en place sur le territoire de ce protocole territorial de prise en charge des femmes qui est en situation de violence. Et nous visons d'ici fin 2022 à mettre en place 82 centres dans toutes les provinces, dans toutes les provinces du Maroc. Dans ce cadre, nous avons aussi lancé l'Académie Attamkin, Empowerment Academy for Women, et qui a pour rôle de renforcer l'accès des femmes à la formation, notamment dans le domaine d'accès au droit, la connaissance sans condition d'âge ou de diplôme. Les engagements aussi du plan gouvernement, du programme gouvernemental 2021-2026 visent à augmenter l'activité, le taux d'activité des femmes à 30% au lieu de 20% actuellement. Notre ministère de la Solidarité, l'Insertion sociale et la Famille, et dans le cadre de la déclinaison de la vision royale du programme gouvernemental, a mis en place une stratégie Green Inclusive Smart Social Regeneration et qui permet l'amélioration, l'intégration économique et sociale des femmes au niveau territorial, notamment dans les zones rurales. Et nous avons lancé un programme d'accompagnement de 36 000 femmes cette année avec les conseils des régions et les wilayas et provinces du Maroc pour accompagner, comme j'ai dit, 36 000 femmes à créer une activité économique cette année. Aussi, à la fin de cette intervention, je souhaite réitérer mes remerciements à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée pour m'avoir invitée pour participer à ce forum. Vous souhaitons plein succès à vos travaux. Je salue fortement votre initiative dont les dimensions sont multiples pour relever les défis qui freinent l'égalité de la parité, porte d'entrée essentielle pour tout développement durable et inclusif. Je réitère aussi l'engagement du Royaume du Maroc pour œuvrer ensemble pour plus d'implication des femmes dans l'action politique pour une Méditerranée, berceau des civilisations et de la connaissance et où règne la paix, la tolérance et le partage. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, madame, et merci pour votre participation dans la séance et pour votre vision et la vision du gouvernement de Sa Majesté. Teremos agora também em forma de videoconferência o presidente ouvir.
En forme de vidéoconférence, nous avons un message qui a été enregistré de l'eurodéputée madame Isabel Santos.
Bonjour, j'aimerais en fait remercier tout le monde donc d'être ici avec vous donc par rapport à cette séance donc que vous avez organisée. Je suis désolé de ne pas avoir été ici hier dans la séance inaugurale, mais en fait nous sommes dans une séance plénière au Parlement et je suis à Strasbourg et je ne pouvais pas être parmi vous et donc durant la crise de la COVID-19, nous avons vu quel était en fait le travail que nous avons accompli avant la pandémie et après la pandémie. Et nous avons en fait passé 3h09 par jour donc sur nos ordinateurs et en 2020, en fait, ces chiffres se sont accrus à 7 heures par jour. Et donc, les femmes, en fait, ont passé beaucoup de temps avec leurs enfants. Cela a eu aussi beaucoup d'effets par rapport à la pandémie, par rapport aux différentes question, et ceci par rapport au respect donc de tout ce qui s'est passé dans les foyers, la violence domestique et toutes les implications que cela a eues, la surcharge de travail en télétravail, le problème des enfants dont il fallait s'occuper en même temps. Et nous avons vu combien, en fait, les chiffres ont grimpé par rapport à cette violence. Et en fait, en Europe, 5,3% a été victime de violence. Et ceci est important par rapport à cette région et par rapport à ce que tous nous connaissons. Les femmes ont participé en Europe, dans toutes les régions, et nous avons vu tout ce qui a été en fait important et tous les problèmes domestiques lorsqu'il fallait allier travail et maison, et toutes les implications que cela a eues sur la violence domestique, sur le travail des femmes. Et ces chiffres montrent bien ce dont je viens de vous parler, que nous avons en fait des objectifs à accomplir pour 2020 et par rapport donc au développement durable et à l'objectif numéro 5 par rapport à l'égalité des genres. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Il y a encore beaucoup de choses à faire et un grand chemin à parcourir par rapport à ces questions, et nous devons avoir donc accès, donc depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, à ses responsabilités. Et les femmes vont à l'école, les jeunes filles, et en fait elles doivent être employées dans des emplois qui leur correspondent et accomplir des tâches qui sont en fait importantes. Et parfois les femmes sont confrontées à des travaux difficiles, et il faut qu'elles allient vie de famille et vie professionnelle, ce qui n'est pas toujours facile. Par rapport donc à toutes ces questions, par rapport à la question du genre, par rapport à ces différentes tâches qu'elles doivent accomplir. Et nous voyons donc que ceci est important par rapport donc à toutes les positions donc qu'elles ont acquises et les positions de responsabilité qu'elles ont acquises dans la société. C'est très important. Et je crois que nous sommes vraiment maintenant confrontés à des personnes qui occupent des postes de haute responsabilité dans notre société, et en particulier par rapport à la politique des genres, nous devons insister sur ces questions, sur la répartition du travail, l'équilibre entre le travail et la vie de famille. Et c'est un peu ce que dans toutes les délégations donc ont mis l'accent sur le fait de ces différentes questions qu'il faut résoudre avec des experts et des panels qui ont discuté de ces questions. Et je pense que nous avons eu donc en 77, la représentation des femmes au Parlement était de 15,2%, et maintenant nous avons à peu près 40% de femmes élues au Parlement européen. Et donc notre présidente est une femme, et dans les 27 États membres, il n'y en a qu'un qui n'a pas en fait une femme élue. Et je pense que j'ai déjà beaucoup parlé et je ne veux pas continuer parce que le temps est précieux, mais je pense qu'en ce qui concerne la politique des genres, nous devons faire le maximum pour avoir une juste répartition des sièges. Et bien sûr, il est bien clair que pour les pays de l'Euroméditerranée et du Golfe, nous avons beaucoup de travail encore à faire, mais nous, en tant que parlementaires, nous devons en fait travailler ensemble pour relever ce défi. Des forums comme le vôtre sont extrêmement importants pour la société, et par rapport aux expériences, par rapport à tout ce qui est important pour traiter de ces questions, par rapport aux différents partis, par rapport à l'Ukraine, par exemple, tout ce qui se passe. Je pense que nous devons en fait trouver des idées, et par rapport aux bonnes pratiques que nous voulons appliquer. Ceci est extrêmement important par rapport à la pandémie et la période post-pandémie. Je crois que nous avons 25 millions de femmes qui en fait gagnent moins de 2 euros par jour, et c'est un vrai problème. Et je crois que c'est un des aspects catastrophiques de la pré-pandémie. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, c'était la participation de notre collègue donc de Strasbourg, Madame Santos, et qui fait partie du Parlement européen, comme elle vous l'a dit, et qui est présidente du groupe des femmes. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Monica Ferro du bureau de Genève, donc de Nations Unies, et qui va être présente en ligne. Monique est aussi une ancienne collègue du Parlement. Monica, la parole est à vous.
Bom dia a todos e a todas. Estávamos só aqui a terminar uns pequenos
detalhes. Je termine des petits détails techniques et je voudrais justement vous remercier du privilège que j'ai d'être avec vous aujourd'hui. Et je voudrais remercier mon cher ami et compagnon Pedro Roque. Nous avons passé la dernière législature au Parlement ensemble. Le scénario est différent maintenant, mais la cause est toujours la même. Aider à construire des options plus dignes pour tous dans un contexte international. Et je dois commencer par dire que je me sens très honorée de diriger, de m'adresser au Parlement portugais. Et j'ai toujours reconnu l'importance des forums qui avaient un leadership féminin. Et j'avoue que j'ai une certaine émotion d'être participer à cette séance inaugurale de ce forum parlementaire, de l'Assemblée parlementaire. Et c'est avec une certaine humilité que je vous rappelle qu'il y a des responsabilités politiques. Nous, les Nations Unies, nous avons l'obligation de traduire vos actions parlementaires au niveau international. Et mon travail pour la population, comme vous le savez, je reprends la directrice du bureau ici à Genève. Et permettez-moi de vous dire qui nous sommes. Nous avons été créés en 1979 dans un contexte très spécial où le monde craignait une croissance populationnelle exponentielle qui ne serait pas accompagnée par une croissance de ressources disponibles pour garantir que ces personnes seraient toutes nourries. Et il apparaît comme une entité créée par l'Organisation des Nations Unies pour prêter assistance technique aux États, pour fournir des données sur l'évolution du marché, l'évolution sociale, pour permettre que les pays puissent avoir des données plus concrètes pour un processus de développement. Et le temps est passé et nous avons à chaque fois travaillé davantage ce domaine très important pour notre travail, la réalisation. Nous prêtons une assistance technique aux instituts nationaux de statistiques en aidant les pays à réagir et à avoir davantage de connaissances sur certaines questions. Et donc, nous faisons des questionnaires pour avoir des données fiables, mais le temps est passé et notre mandat en 1994 à la Conférence internationale sur la population et le développement, nous avons dit que le fonds a opéré une révolution de paradigme. Nous sommes passés aux droits humains. des humains en droits humains. Et aujourd'hui, nous avons l'agence des Nations Unies qui travaille dans différents domaines pour les femmes, pour garantir, par exemple, l'accès de la contraception à toutes les femmes. Et certains de vous connaissent notre travail, par exemple l'élimination du travail des enfants. Et nous avons des partenariats avec l'UNICEF, d'autres travaillent au niveau de la santé maternelle, dans le domaine de la méthode de contraception moderne, et d'autres travaillent pour les personnes qui sont porteuses d'handicap, mais les migrants, réfugiés et personnes âgées. Et c'est pourquoi nous sommes impliqués avec ces groupes, parce que l'agenda 30-30 a pour objectif de donner ces personnes sur le bord de la route. Et donc il faut qu'il y ait des programmes qui soient élaborés de sorte à ce que cet agenda 30-30 soit une réalité, et surtout s'occuper des personnes qui sont en situation vulnérable, qui sont dans ces situations de vulnérabilité. Notre agenda est très étendu et c'est pourquoi nous avons 120 bureaux, 130 dans des pays où nous travaillons en partenariat avec les gouvernements, et nous travaillons avec les parlementaires, des associations locales. Et il est clair que notre agence, encore hier au Conseil des droits de l'homme, j'ai le droit de le dire, d'investir dans les femmes et les jeunes filles, d'investir à l'avenir. Il n'y a aucun pays dans le monde qui puisse dire qu'il a atteint l'égalité de genre. La région dans laquelle nous sommes le démontre. En réalité, pratiquement dans le monde entier, les relations de pouvoir équilibrées, niveau économique, conflits ont rendu la situation encore plus préoccupante. Et naturellement, la pandémie de la Covid-19 qui a eu un impact extrêmement négatif pour les femmes et les a fait régresser de nombreuses années. Et la notion de ce qui est arrivé au niveau des femmes et ce chemin très long pour arriver à une égalité, à la prise de décision. Et puisque les femmes représentent parfois dans la santé 70% des personnes, et en avril 2020, nous avons publié un document d'orientation politique qui disait une chose très simple: attention avec l'impact disproportionné que cette pandémie aura sur les femmes. Et faites attention à toute la politique du genre. Et toutes les politiques qui sont élaborées pour les droits humains, c'est la participation. Tout sur nous, mais sans nous. Donc rien sur les femmes, sans les femmes. Et aujourd'hui, la pandémie de la Covid-19 et les réponses au Covid-19 a affecté tout le monde, mais tous n'ont pas été affectés de la même façon. Nous avons tout de suite essayé d'estimer l'impact de la pandémie et les réponses à la pandémie sur l'égalité de genre. Nous avons évalué notamment quel serait l'impact dans l'accès à la planification familiale, dans la violence contre les femmes et les situations néfastes. Et je peux vous dire que la déstabilisation des réseaux ont laissé plus de 40 millions de femmes dans des pays où le revenu moyen est très faible. Nous ont laissés sans accès aux moyens de communication modernes. Et ça, et malheureusement, cela a amené 4 millions de grossesses non désirées, par exemple. Et il faut aussi parler du nombre d'infections sexuellement transmissibles qui également a beaucoup augmenté, puisque nous n'avons plus pu distribuer de préservatifs. Et, et dans certains pays, les services, puisque nous n'étions pas en mesure d'assurer ces services, ont été fermées, et bon nombre de femmes ont dit qu'elles ne sont plus allées à l'hôpital pour avoir une consultation prénatale durant leur grossesse parce qu'elles avaient peur d'attraper la Covid. Nous avons attiré l'attention pour quelque chose qui touchait à l'égalité des genres, c'est que les chiffres que nous avons constatés pendant la fermeture et les confinements, l'inégalité de genre a augmenté et passé à des chiffres alarmants, et ce qui a suscité des réponses très fortes de la part des États, parce qu'ils ont compris que c'était quelque chose qui ils ne pouvaient pas ne pas avoir une réponse. Et pour terminer, dans quel autre domaine nous travaillons au niveau au cours de la pandémie, nous avons demandé immédiatement que les retards des programmes pour l'élimination du travail des enfants il y a eu des différents cas de qui auraient pu être évités au niveau de la pandémie. Et l'impact a été catastrophique. Nous savons qu'une femme sur trois subit des violences du genre. Et il y a 2 semaines, le secrétaire des Nations Unies a dit que pendant la Covid, une femme sur trois a subi une violence basée sur le genre. Et si nous allons aux données de la Covid-19, l'impact de la Covid-19 continue à avoir des effets et à augmenter le fossé qui est comparable à une génération. On prévoyait 99 ans et maintenant on prévoit le double. Nous prévoyons que l'égalité de genre prenne 133 années pour que l'on parvienne à une égalité réelle. Et dans tous les domaines, l'augmentation était exponentielle. Et à la vitesse à laquelle nous allons, les hiatus de genre peuvent être terminés en 52 ans. Et il faudra 71 ans pour l'Amérique du Nord et 169 ans en Amérique latine et Caraïbes. Dans les autres régions, plus de 100 ans pour réduire ce gap du genre. 134 années dans l'Europe centrale et 175 ans dans la zone asiatique. Et du passé, 142 ans dans le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient, 95 ans dans le sud-est asiatique. Oui, mais heureusement, les bonnes nouvelles, c'est que ça ne va peut-être pas arriver. C'est qu'il y a des investissements qui peuvent accélérer l'égalité des genres et éliminer certaines des conséquences les plus négatives, pas seulement de l'inégalité qui existait avant la pandémie, mais après la pandémie. Et sous cet angle, nous avons montré d'une façon suffisamment détaillée avec des données internationales que l'investissement sont absolument nécessaires. et toutes les ressources productives doivent être part intégrante de toute réponse à la COVID-19 et nos efforts pour avoir une culture universelle de santé doivent être ces soins doivent être une partie intégrante des soins de santé primaire et que les femmes et les jeunes filles aient accès à un ensemble de services. Pendant la pandémie, on peut quand même contribuer à ce qu'elles aient des soins de santé de qualité. Elles ont pu trouver des sages-femmes qui ont pu prêter leurs services dans des zones reculées et à travers des réseaux sociaux et des messages par texte, ont réussi à maintenir une des chaînes d'approvisionnement et ça a été fondamental pour assurer l'égalité pour les femmes et les jeunes filles. Et notre travail, c'est de poser la question, qui est laissé sur le bas du chemin? Nous sommes en permanence en train de développer des exercices de cartographie l'exécution de tous ces programmes. Et c'est pourquoi je dois saluer le mécanisme de l'égalité des genres de l'Union pour le Méditerranée, puisque le rapport de mars de cette année offre des pistes très intéressantes, pas seulement des pistes de réflexion, mais pour l'appui à des politiques. Et je l'ai lu avec la plus grande attention et je ne vais pas détacher les données très intéressantes qui y sont contenues, mais ce que j'ai déjà dit, c'est l'idée que dans la zone du Méditerranée, la parité de genre en Europe occidentale peut être atteinte au bout de 54 ans et dans la région de Nord-Afrique et Moyen-Orient, cela prendra 140 ans. Le message positif, c'est que cela vaut la peine d'investir pour atteindre l'égalité des genres. Pour les femmes en âge de travail du Moyen-Orient et du Nord d'Afrique pourraient additionner 3 trillions de dollars à la richesse de ces pays. Et c'est la Banque mondiale qui le dit. Nous ne sommes pas en train de discuter seulement d'une mesure pour de bonne politique, de bonne gestion, mais c'est aussi une mesure qui est économiquement très, très importante. Et pour tous, le rapport nous donne une analyse très intéressante des cadres législatifs. Et c'est bon de savoir que tous les pays de la Méditerranée ont des provisions dans leur constitution et dans leur loi qui font la promotion de l'égalité des genres. Et dans bon nombre d'entre eux, il y a un effort considérable pour développer des budgets, pas seulement sensibles au genre, mais des budgets qui puissent répondre à l'impact différencié de chaque mesure sur le genre. Et la participation des femmes, économique des femmes, ce qui montre bien que c'est toujours un défi, et surtout dans des matières d'équilibre. Nous venons d'écouter la députée Isabel Sanchez qui montre le poids de la COVID. Nous avons entendu parler d'entrepreneuriat féminin en Europe et dans la région du Moyen-Orient. On a parlé aussi de leadership féminin et de tous les efforts que les pays de cette région ont fait pour garantir une plus grande représentation dans les parlements et dans les structures nationales et régionales, et un bilan qui est, disons, mitigé en termes de résultats. S'il y a une conscience très approfondie de la valeur intrinsèque de l'égalité de genre pour garantir à tous la possibilité de participer dans les décisions concernant leur destinée. Je parle du niveau macro et je parle de la participation dans la prise de décision, mais je parle aussi dans la traduction de ces engagements en programme, dans la traduction de ces programmes pour des réalités tangibles et l'évaluation de la réalisation de ces programmes qui pourront amener à certaines corrections. Alors je voudrais vous laisser certaines pistes pour et mettre à disposition tous les bureaux que nous avons dans nombreux pays pour travailler avec vous et faire de ces idées, de ces suggestions une réalité. Et les réflexions finales que je voudrais partager avec vous, le fait que cette pandémie nous a amené à la mémoire la dépendance que nous avons au travail non rémunéré des femmes. Les femmes dominent l'industrie des soins. Et les travaux domestiques, c'est un travail non rémunéré. Et pour la plupart, les soins sont également non rémunérés. Et tout cela a augmenté pendant la pandémie. Un sondage que nous avons fait en 2021, on nous a montré que plus de la moitié de femmes qui avaient des enfants à la maison sont consacrées plus au-delà de 5 heures pour s'occuper des enfants. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Et ce travail-là n'est pas reconnu ni comptabilisé dans les prises de décision ou dans l'économie des pays. Et cela a un impact direct sur la vie économique et sociale. Nous savons que un nombre immense de femmes travaillent dans l'économie globale où il y a de l'insécurité, de la précarité, des revenus plus faibles, des conditions de travail plus dures. Et la pandémie a justement poussé davantage de femmes vers ces situations précaires. Et la pandémie a rendu très clair qu'il fallait des investissements massifs dans les systèmes de santé qui doivent être universels et résilients et qui doivent et il faut que ces programmes se consacrent à des besoins concrets. Et nous savons il y a des bénéfices intrinsèques d'investir dans la santé sexuelle parce que ce sont des services essentiels qui sauvent des vies et qui transforment la société. Je l'ai déjà dit, mais l'accès à des services et à des produits de qualité en matière de la santé sexuelle influence les décisions que les femmes sont capables de prendre au niveau de leur vie. Et par conséquent, nous devons travailler avec les gouvernements pour assurer que les réponses à la COVID et les plans de récupération prennent en considération l'impact unique et inégal de la pandémie sur les femmes et en clarifiant la manière de répondre à la violence domestique nous parlons de construire des sociétés plus égalitaires et nous parlons de mettre les femmes au centre de la prise de décision et pour savoir quel était l'impact de la pandémie et créer des programmes de réponse à la pandémie. Il faut qu'elles aient une dimension de genre, évidemment. C'est un exercice. La parole femme ne doit pas être un exercice je voudrais vous laisser trois idées. L'une d'elles, donner priorité à des politiques qui appuient l'égalité du genre et qui incluent les femmes et l'accès à des contraceptifs modernes, à des pour la maternité et que tous les soins pour les enfants soient accessibles et des modèles de parentalité partagés. Deuxième idée. J'ai la légitimité et le pouvoir de transformer les sociétés, lutter pour cela, pour lutter les lois discriminatoires qui empêchent les opportunités économiques des femmes et qui ont pour résultat ces inégalités de genre et qui sont limites. Ma dernière demande, c'est travailler pour éliminer l'invisibilité statistique qui est une forme d'expulsion. Et c'est peut-être la manière la plus funeste d'exclusion. Nous devons avoir des données par activité, par secte et par d'autres facteurs socio-économiques. Et ce serait utilisé pour que nous ayons une meilleure compréhension de ce que sont les intersectionnalités et les discriminations qui très souvent se superposent et sont un fardeau encore plus lourd et l'obstacle plus grand pour l'égalité de genre. Il faudra avoir plus de détails des obstacles sur la santé sexuelle et reproductive, sur la vie économique. C'est un effort que tous doivent faire. Je termine en saluant la création de ce forum parlementaire des femmes et vous souhaitez un travail très inspiré, un travail très créatif parce que, assurément, continuer à traiter des problèmes qui sont nouveaux et que nous comprenons de plus en plus avec des vieux instruments ne nous mène nulle part. Nous voulons c'est l'égalité et profiter ce potentiel énorme qui jusqu'ici n'a pas été exploité, qui sont les énormes populations de nos pays, l'énorme pourcentage de femmes et jeunes filles et jeunes qui ont été en situation de vulnérabilité, nous les rendre notre région du monde et que nous puissions y vivre avec plus de liberté. Merci. Et Pedro, et excuse-moi d'avoir été un peu long.
Merci Monica, c'est toujours un plaisir de vous voir même d'une manière virtuelle. Donc maintenant je vais donc donner la parole à monsieur Al-Fazi des États arabes réunis, des Émirats. Et donc monsieur Al-Fazi va parler donc des différents problèmes rencontrés. Bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi donc j'aimerais donc avoir le bonheur de reprendre les mots du poète des Émirats, Misk Sulwaidi, qui a dit: je ne suis pas une poupée, je ne suis pas une marchandise à être vendue, je ne suis pas un enfant. J'espère que l'innocence ne se perde pas et que mon rêve couleur en fait de la rose ne disparaissent pas. Il est important d'écouter et d'entendre. Et en fait, lorsque l'on se trouve devant un phénomène qui en fait viole le rêve et l'innocence d'un enfant, nous nous sentons en fait aliénés par rapport à tous les rêves que nous pourrions avoir dans la vie. Et en fait, en ce qui concerne la douleur des petites filles qui sont mineures, elles se transforment en fait en fiancées de la mort, dont les conditions et les cœurs sont éteints et sont aveugles. Et Et ce sont en fait des esprits malades qui trouvent dans le viol le droit et l'innocence, de bafouer l'innocence de l'enfance et qui en fait satisfassent leur soif animale de gain des humains, inhumains. Et aujourd'hui, nous sommes en fait confrontés à un phénomène assez dangereux dans notre société par rapport au phénomène du terrorisme, par rapport à la position sociale, par rapport au futur et par rapport à l'égalité, par rapport aux décisions à prendre. Et nous voyons donc comment, en fait, il y a toute une série de problèmes à ce niveau par rapport à l'ignorance, en fait, le retard et de retour d'habitudes et coutumes anciennes dans la société qui ne sont pas sanctionnées par la loi. Le mariage de mineurs est un phénomène mondial et qui remonte donc dans les sociétés les plus anciennes à de personnes qui n'ont aucun sentiment de plus. En fait, les conflits armés aussi ont été une aggravation de la société. Et c'est un phénomène qui a en fait désorganisé toute l'organisation sociale. Et en fait, les familles ne trouvent pas des recours à ce niveau. En fait, on viole l'innocence des enfants. Et ceci est dommage. Parce qu'au niveau social, il ne s'agit pas d'une question au niveau des jeunes filles, mais aussi de la société, dans une société. Et en fait, le mariage devient un viol de l'intégrité physique de ces jeunes filles. Et en fait, c'est une bénédiction de notre esprit et nous devons absolument arrêter ce phénomène en ce qui concerne ces jeunes filles qui sont envoyées à l'échafaud. Nous ne voulons pas continuer en fait cette conversation, même si elle a un impact énorme dans nos sociétés aujourd'hui. Et cela montre bien le danger de ces dérives. Nous avons 12 millions de jeunes filles qui vont se marier avant l'âge de 18 ans. Et ceci est dramatique. Il y a plus de 50 millions de jeunes filles par rapport aux accords à ce niveau. Et ceci est important par rapport au nombre d'enfants en Afrique. Il y a plus de 110 millions d'enfants qui sont touchés par ce phénomène dans cette réalité arabe et dans ce monde arabe. Nous voyons que nous avons en fait toute une série de viols et des droits de l'homme et droits de la femme, qu'il s'agisse de la Syrie, du Liban, de tous les pays arabes. Nous allons en fait souligner ces questions par rapport à ces différentes questions et par rapport à ces questions. Et par rapport aux différentes questions, par rapport aux droits de l'homme, et qui font en fait partie de ces différentes questions, c'est en fait une arme à double tranchant. Et les femmes aujourd'hui sont en fait soumises à une souffrance à ce niveau, par rapport à ces femmes qui sont violées. Et nous voyons comment il y a une exploitation de jeunes filles et de petites filles pour une exploitation sexuelle, et ce pour le recrutement à ce niveau de différentes questions. Et ceci, nous voyons donc comment nous avons en fait aussi le problème du Yémen qui dans les années 90 que l'âge légal des jeunes filles pour se marier était de 15 ans et dans le nord 16 ans. Mais maintenant les choses ont changé. L'âge légal a changé. Et c'est le père de la jeune fille ou de la petite fille qui dit en fait que la petite fille est prête par rapport à ces questions. Et en fait, nous voyons donc comment ceci est important par rapport à ces questions. Et en fait, et on voit en fait combien de jeunes filles et de petites filles souffrent à ce niveau. Et ceci, en ce qui concerne le Centre national d'études, nous voyons donc comment, par rapport à ces questions, il y a en fait un âge légal qui a diminué par rapport à l'âge du consentement pour le mariage. Et c'est dans une étude que nous avons vue des Nations Unies qui a bien montré qu'une jeune fille ou petite fille sur cinq est en fait déplacée et elles sont mariées sans avoir donc la possibilité d'avoir un recours. Et une jeune fille ou petite fille sur huit se trouve dans des situations difficiles et nous avons une alternative de 66% qui se marie avant les 18 ans. Et par rapport aux 50%, c'était en fait ce que l'on voyait en général, que 52% des femmes pouvaient se marier donc avant l'âge de 17 ans, et le nombre de petites filles et jeunes filles qui sont mariées ont triplé depuis 2018. Et en fait, les Nations Unies, par rapport à ces questions, remontent à 62% par rapport à ces questions. Et il n'y a aucun doute, en fait, que nous avons mis en fait en exergue ces politiques désastreuses par la ministre responsable de l'ONU-SIDA. Et nous voyons donc combien la majorité des jeunes filles en fait ont eu des conditions de vie extrêmement difficiles et certaines se sont suicidées. Et en fait, c'est la douleur que nous rencontrons. Et nous allons donc voir que si les pourcentages continuent à augmenter, tout à fait, nous allons avoir un jour les enfants et les jeunes filles auront le pouvoir de parler, de dire tout ce qu'elles ont souffert. Et ceci est très triste. Et en fait, je continue à dire qu'elles ne sont pas des poupées et des objets.
Padre.
Merci beaucoup. Donc, j'ai aujourd'hui vu en fait un dessinateur qui est au Yémen, qui en fait a bien montré que c'était en fait vraiment une image parlante en fait, et ce dessinateur a bien montré avec cette photo. Merci beaucoup, et avant donc de passer à d'autres informations, nous sommes un peu en retard par rapport à cette séance et j'aimerais vous dire, nous allons avoir une pause café et si vous voulez, vous pouvez vous servir donc durant la séance parce que le café est servi. Et donc nous allons avoir donc l'intervention donc de Madame Susanna Ribeiro à ce niveau.
Mes chers collègues de ce panel, illustres orateurs, bonjour à tous, à toutes les personnes ici dans cette assemblée et pour ceux qui nous suivent en ligne. Je suis très honorée de prendre la parole dans cette maison et très honorée de faire part à un forum si inclusif des femmes qui représentent la Méditerranée. Hier, j'ai eu la possibilité de vivre, d'entendre plusieurs discours et je les ai écoutés avec beaucoup d'intérêt. Surtout la ministre adjointe des questions parlementaires du Portugal qui avait entendu une expression qui l'avait marquée, une métaphore qui comparait les hommes et les femmes. D'hier à aujourd'hui, avec la ressource des technologies, j'ai pu chercher un petit peu à savoir quelle était cette phrase et j'ai appris qu'il s'agit d'une phrase qui fait partie d'un discours d'un leader religieux iranien, Abdu'l-Bahá, qui a été proféré en 1902, qui visitait le Canada sur la promulgation de la paix universelle. Et ça a été très édifiant pour moi que des études, moi qui étudie l'égalité des genres depuis quelques années, et j'ignorais complètement ce courant philosophique et au début du siècle XX qui défendait que l'égalité entre hommes et femmes était la seule voie du progrès. Et je cite, « L'humanité possède deux ailes, l'aile masculine et féminine. Tant que ces deux ailes ne sont pas équivalentes, l'oiseau ne volera pas. Jusqu'à la que la femme atteigne le même degré de pouvoir que l'homme, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement intégrée dans les domaines d'activité, les progrès pour l'humanité ne sera pas réalisé. Lorsque les deux ailes deviendront équivalentes en force, en jouissant effectivement des mêmes droits, prérogatives et devoirs, le vol de la société sera très haut et extraordinaire. Donc la femme doit recevoir la même éducation que l'homme et toutes les inégalités doivent être ajustées jusqu'à ce que tant que cette égalité ne soit pas atteinte, il n'y aura pas de progrès véritable. Et une des nouvelles intéressantes que nous avons entendues ces derniers jours, c'est une entrevue du Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson. Et dans cette entrevue, il dit « Je suis convaincu que si Poutine était une femme, l'invasion de la Russie, l'Ukraine par la Russie ne serait pas arrivée. Nous ne le saurons jamais si cette pensée du Premier ministre britannique est vraie, parce que nous n'avons pas de moyens de le prouver. Nous n'avons pas suffisamment de femmes dans des charges politiques pour affirmer que les femmes sont moins belliqueuses que les hommes. Nous avons besoin de plus de femmes dans les parlements, dans les gouvernements du monde entier, pour pouvoir faire cette affirmation avec confiance. Mais il est fort probable que le PM britannique peut-être être dans le vrai. On m'a invité de vous dire quelle est la perception que j'ai, puisque je travaille dans un service public qui a pour mission de promouvoir les politiques d'égalité de genre. Et la tâche ne m'a pas paru très facile d'évaluer ces politiques, malgré toutes les références que nos pays peuvent présenter, et elles sont certainement très nombreuses et culturelles. Il y a toutefois une analyse macro de la question qui peut être effectuée. Dans tous nos pays, il existe encore des inégalités de genre. Dans tous nos pays, les hommes et les femmes ont une représentation inégale dans l'espace politique, davantage d'hommes dans les parlements, davantage de femmes dans les gouvernements, davantage d'hommes dans les partis politiques. Nous avons le cas portugais, où il existe la loi de la parité qui est en vigueur, et cette loi a tout changé. Aujourd'hui, nous avons 40% de femmes au Parlement. Mais ça ne serait pas arrivé si nous n'avions pas eu les fameux quotas. Et il en aurait été de même dans les entreprises publiques et privées, où également on constate une énorme difficulté de progression de carrière. Mais effectivement, Le Portugal a en ce moment en vigueur une loi de quotas qui oblige à ce que les postes exécutifs dans les organes de direction soient effectivement respectueux du critère de sexe féminin. Et dans tous nos pays, il y a différents de genre, conséquences de la ségrégation académique et professionnelle, déséquilibre de la reconnaissance sociale, de ce que l'on entend que sont des travaux de femmes. Il y a davantage de femmes dans certains domaines, c'est-à-dire les domaines des soins, les domaines de l'éducation. Nous avons davantage d'hommes qui choisissent des carrières universitaires et professionnelles dans les domaines technologiques, l'ingénierie et même dans l'informatique. Nous assistions à une différence salariale de rémunération qui correspond à ces fonctions. Et dans tous nos pays, il y a un fort déséquilibre dans les soins, dans le travail domestique. En Portugal, les femmes travaillent 2 heures de plus que les hommes. Un travail non rémunéré. Et les week-ends, cela va jusqu'à 4 heures. Cette différence est la plus grande dans les pays européens. Les femmes vont chaque fois plus à l'université, ont des licences, des masters. Et c'est commun aux pays qui sont là. Elles sont les principales victimes de la violence domestique et de la violence de genre. Les principales victimes d'harcèlement sexuel, que ce soit dans la vie scolaire ou la vie politique. Et tout ceci est commun à toutes celles qui sont ici, à nos pays. Commun à tous les pays, c'est la pandémie de la Covid-19. Alors, quelles sont les conséquences économiques? Il n'y a pas de crise neutre. Les effets ne sont jamais les mêmes pour les femmes et les hommes. Et là, on a beaucoup écrit sur ce thème. Et Monique Affaire nous a amené et apporté ici cette information. Signe des temps, on a étudié et écrit pour la première fois en temps réel sur les conséquences auxquelles il fallait s'attendre de cette différence. Alors, l'OIT a publié des rapports sur la question en la croisant sur le travail digne. L'Institut européen pour l'égalité de genre a publié un rapport sur le thème. D'ailleurs, à la demande de la présidence portugaise de l'Union européenne, qui a eu lieu au premier semestre 2021, les Nations unies ont publié différentes études. Le thème est identifié. Toutes ces études démontrent qu'il est absolument nécessaire que toutes les politiques de récupération d'économie tiennent en compte une perspective de genre, pour que les résultats qu'on atteindra ne seront pas mis en cause et qu'il n'y aura pas une régression de comportements stéréotypés entre hommes et femmes qui nous fasse revenir au passé. Et l'éducation, c'est la clé pour garantir que nous n'allons pas régresser dans la promotion de l'égalité de genre. Nos politiques publiques, promotion d'égalité, doivent commencer à l'école, éduquer à l'égalité, éduquer au progrès et à un meilleur avenir. Et au Portugal, ça a été un pari très fort. Il faut former le personnel dans une perspective de genre, garantir que nos enfants sont élevés pour l'égalité. Et il y a aussi un pari des politiques publiques qui doivent autonomiser des professionnels publics, la justice, la police, la santé. Nos administrations publiques doivent être formées pour promouvoir l'égalité des genres et ne doivent en aucune circonstance avoir des comportements discriminatoires. Et ça peut même arriver de façon inconsciente par manque de formation ou pour l'enracinement des stéréotypes de genre. Donc la formation, c'est la meilleure solution. Et pour finir, nous sommes face à une audience qui est constituée de femmes parlementaires, des femmes qui sont leaders, des femmes qui sont la preuve vivante que les femmes peuvent arriver à des charges publiques importantes. Je voudrais vous dire que votre rôle est fondamental pour servir de modèle, d'inspiration à d'autres femmes et aux jeunes filles. L'être humain suit des modèles. Il y a des milliers d'années que les hommes ont des modèles et des stéréotypes, les femmes non. Et il faut que vous montriez votre travail, publiez les résultats de votre action politique, participez des débats publics, donnez de la visibilité à votre travail. Plus vous serez connu dans votre profession, dans votre poste, plus il y aura de femmes qui voudront suivre votre exemple. Comme disait Madame Michelle Bachelet, lorsqu'une femme devient politique, la politique peut ne pas changer, mais quand un grand nombre de politiciens, d'hommes arrivent à la politique, alors là, la politique change. Et les hommes ont chaque fois plus de possibilités de travailler avec les femmes et qu'ensemble, ils soient capables de prôner l'égalité et l'inclusion. Merci beaucoup. Merci.
Donc nous allons donc entendre maintenant la directrice de l'Institut du genre dans la Méditerranée, donc Susanna Pavlo. Merci beaucoup pour me donner la parole au nom de cette étude sur l'étude des genres par rapport à ces questions, et c'est un plaisir pour moi de voir ces questions du genre avec l'APM. Et je suis désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais ceci est important pour nous. Nous avons en fait, j'ai écouté avec attention donc toutes les interventions. Voici ma présentation et je vais partager mon écran si vous me le permettez. Et pour donc donner une idée de ma présentation et aider aussi au suivi de celle-ci. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais me concentrer donc dans ma présentation sur l'impact de toutes les mesures de la pandémie et du confinement, en fait, sur les soignants et le travail de soins et dont les différents orateurs ont parlé. Et je vais aller un peu plus en profondeur. Et je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti pour vous parler de quelques recommandations que nous avons en fait édictées à ce niveau. Voilà. Même sans la crise de la pandémie qui en fait a suivi, les responsabilités sont importantes et ce sont toujours les femmes qui ont en fait ces responsabilités et elles incombent toujours aux femmes. Et donc nous avons en fait à voir en fait que les femmes et les jeunes filles sont responsables pour 75% des soins non payés et des tâches ménagères. L'OIT calcule que en fait les femmes en général passent 4h25 par jour et 1h23 pour les hommes d'heures non payées dans le monde entier. Avant l'apparition de la COVID-19, les femmes dépensaient plus de 13 heures supplémentaires par rapport aux hommes dans les tâches ménagères et les tâches non payées. Et donc avec l'Institut européen, donc par rapport à l'égalité des genres et de son index en 2021, nous voyons donc beaucoup plus de femmes travaillent à mi-temps et les femmes sont responsables des tâches ménagères et des soins apportés à la famille. Et donc ici nous voyons aussi, parce que je voulais partager avec vous donc les différentes données à ce niveau et par rapport à mon organisation, donc où en fait nous avons une situation par rapport donc au travail de soins, par rapport à ces questions. Et ceci est très important par rapport à l'Union européenne. Est-ce que les femmes donc ont bien compris en fait ces doubles travaux à faire? Les femmes donc qui sont responsabilités, et en fait je le dis entre guillemets parce que elles doivent aussi travailler en dehors de la maison et elles doivent prendre soin de leurs enfants, mais sans essayer par rapport à la distribution du travail. Et en fait, il y a en fait les triples pauses à ce niveau. Et ceci est important par rapport à ces questions du bien-être des enfants dont elles s'occupent. nous avons en fait toute une série en fait de problèmes qui sont résolus par les femmes, et tout cela a été montré dans les pandémies. Et les femmes donc avaient vraiment et ce à ce niveau est très important. Et la manière dont nous travaillons à ce niveau par rapport au travail et aux tâches répétitives que les femmes et les jeunes filles ont accomplies, ceci nous voyons lorsqu'elles sont faites, comment nous avons donc une contribution par rapport au PIB, et ceci est une valeur non reprise et qui est dommage. Et c'est à peu près 3 trilliards de dollars chaque année. Et donc, il faut dire que l'humanité dépend de ces économies, mais en fait, elle est tout à fait ignorée. En fait, par rapport au travail de soins qui sont non payés, et donc je vais donc parler d'une étude de 2017 qui est tout à fait donc qui génère en fait ces différentes normes par rapport aux différents emplois et par rapport à ces questions. Et par rapport donc au COVID-19 et par rapport à ces questions, nous voyons donc ces différentes questions, et nous voyons que la COVID-19 et les restrictions qui ont s'associé donc sont importantes par rapport à la redistribution du travail entre hommes et femmes, et nous voyons donc comment nous allons travailler à ce niveau. Le travail domestique pour les femmes est tout à fait sous-évalué et non payé. Les parents, grands-parents, grand-mères sont en fait d'une manière de diviser le travail et les tâches domestiques à la maison. Et en fait, tout cela par rapport aux soins qui sont donnés aux enfants et confiés aux femmes. Durant la pandémie, les femmes donc ont été en fait touchées par le fait que les enfants n'allaient pas à l'école, par les soins apportés aux personnes âgées. Et nous voyons donc comment les femmes se retrouvent dans des situations prédominantes où elles consacrent leur temps aux soins pour les enfants, aux soins pour les personnes âgées. Et donc, il y a toute la vie de famille qui a été donc mise en exergue par rapport à la santé mentale, comme je l'ai dit auparavant. Et les femmes n'ont pas accès donc aux mesures de protection sociale à ce niveau. Et beaucoup de femmes travaillent dans des emplois précaires, et c'est la raison pour laquelle, et dans la dépression en fait mondiale, ce sont les premières en fait qui sont licenciées et les dernières réengagées. Il y a chaque fois moins d'emplois, et par rapport à la participation économique, comme je vous l'ai dit, nous devons voir comment on doit être chaque fois plus flexible et chaque fois moins rémunéré, et les femmes donc vont abandonner donc ces travaux à ce niveau, et cette situation donc est en fait mise en exergue par les différents abus au niveau donc des tâches domestiques, mais aussi par les pressions exercées par les États et les institutions et les ONG donc ont travaillé à l'encontre de la violence par rapport aux femmes et aux jeunes filles, et en particulier à la violence domestique qui n'a fait que s'accroître après la pandémie, et ce qu'on appelle la phase après la pandémie, post-pandémie. Et donc, nous voyons que les rapports de police, en fait, dans de nombreux pays, sont restés stagnants durant la pandémie. Mais après, nous avons vu, après le confinement, l'explosion de la violence domestique. Et en fait, c'est une priorité pour l'Europe. Et nous avons vu que dans la politique européenne, il y a toute une série de questions qui ont explosé après le confinement. Et en fait, toutes les questions du travail à mi-temps, du travail flexible, qui ont en fait fomenté ces différences entre les genres et le problème de la violence. Et donc, nous avons vu donc comment les papas ont dû en fait aussi s'occuper des enfants, les solutions, la crise, et ont dû passer beaucoup plus de temps à la maison. Et c'est une opportunité aussi de s'engager dans l'éducation de leurs enfants. Et c'était vrai. Mais néanmoins, un exemple où cela ne s'est pas passé, c'est en fait ces différentes questions par rapport donc à la pandémie et par rapport à la productivité. Nous devons voir encore comment nous allons travailler par rapport au recueil de ces données et à ces changements. Nous allons avoir donc un glissement par rapport aux gens. Et je dirais donc que ce sont des mesures spécifiques qui nous permettront d'assurer cela par rapport à ces différentes questions. La disproportion des impacts par rapport à ces questions qui sont vulnérables, particulièrement à ces impacts négatifs dans les changements de société et par rapport aux femmes de couleur, les Roms et par rapport donc aux femmes qui ont aussi un background qui est moins favorable et des conditions précaires. Et les femmes en fait prennent 85% de la population des mères célibataires, elles représentent 85% de ces femmes qui élèvent toutes seules leurs enfants. Et c'est un peu plus. Il y a aussi le nombre de femmes migrantes qui travaillent dans l'Union européenne, dans le secteur des soins, en fait, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des personnes malades, des handicapés, des personnes âgées. Et cela a un impact par rapport aux femmes de ménage dans le monde. Et ceci est très important par rapport à ces restrictions, par rapport à la réduction des heures de travail et par rapport, en fait, toutes les mesures donc par rapport à la société. Et si on voit tout ce que l'OIT disait en 2020, en fait, 23% donc ont été impactés par la crise et 26% ont eu, en fait, des... en fait un impact négatif par rapport à leur emploi précédent. Et la vaste majorité des personnes qui ont perdu leur emploi ou réduction des heures de travail, et c'est en fait c'est la raison pour laquelle elles n'avaient pas accès aux bénéfices des assurances sociales et maladies. Et donc même celles dans les emplois informels, à Chypre par exemple, même si elles payent les sociétés les impôts par rapport au niveau social, les femmes de ménage devaient demander la charité, les employés de maison demandaient la charité pour avoir de la nourriture sur la table. Et en ce qui concerne les impacts directs, nous voyons comment par rapport à la COVID-19, et comme par rapport à ces questions et à la crise précédente et à la crise financière, les femmes ont bien montré donc quels étaient en fait les effets de la pandémie à ce niveau. Et les questions multidimensionnelles par rapport à la protection sociale et aussi toute une série des facteurs par rapport aux problèmes de santé mentale et l'équilibre entre les genres par rapport à ces inégalités qui sont mises vraiment à mal et fragiles dans des conditions comme celle-ci. Et cette crise économique mondiale a mis à mal donc toute cette parité et toutes les politiques de genre, comme on en a entendu parler, par rapport à ces questions, et voir par rapport comment, donc, ces contextes, on doit sauvegarder tous les droits des femmes, les femmes qui s'occupent des soins, et les différents paquets de mesures d'urgence qu'il faut prendre. En Chypre, on n'a pas vu grand-chose par rapport au plan de recouvrement de l'économie et de ses mesures. En ce qui concerne les inégalités à ce niveau et en ce qui concerne ces différentes consultations à ce niveau et l'organisation donc des femmes, nous devons reconnaître la valeur à ce niveau du travail donc domestique, et ceci est très important. Et donc nous voyons comment nous pouvons en fait avoir quelles sont les conséquences à ce niveau. Nous aurons donc à travailler par rapport à ces opportunités où nous sommes déjà très en retard pour réduire donc la distribution du travail pour tous et les recommandations. En fait, il est très important donc de montrer bien la différence entre les genres, entre les femmes et les hommes, et de voir quelle est l'importance au niveau du développement durable en mettant en exerce les différentes questions à ce niveau du travail et en ce qui concerne les efforts à ce niveau et en fait l'évaluation des soins par rapport aux normes sociales, en fait en ce qui concerne les impacts de transformation dans la société et de voir donc, et je finis brièvement en disant que en fait il faut analyser donc l'impact du genre à ce niveau et de voir donc comment par rapport à ces connexions nous avons en fait aussi des statistiques qui doivent être désagrégées par rapport à l'âge, par rapport aux genres et par rapport aux différentes questions qui ont trait aux femmes et qui sont responsables des tâches ménagères, des soins dans la maison et de l'impact à ce niveau et de voir donc comment les femmes sont englobées dans ce cadre de responsabilité. Nous avons besoin d'investissement dans la politique de soins et dans les écoles. Et il y a aussi une distribution à ce niveau entre les hommes et les femmes qui doit être beaucoup plus équitable. Et donc, c'est voir donc comment nous devons absolument travailler avec ces différentes perspectives de genre par rapport à ces questions. Et je crois que ce qui est très important, c'est que les États membres reconnaissent aussi enfin, ces différentes questions par rapport à la logistique de ce travail qui n'est pas payé et par rapport aux nouveaux calculs qui doivent être payés dans le PIB. Et de plus, nous devons en fait donc parler des politiques de stratégie au niveau des gens en 2020-2025 et de voir comment nous allons répondre aux besoins donc, qui ont été en fait suscités par la pandémie. Et ceci donc peut être fait par l'introduction de nouvelles mesures en prenant compte de la nouvelle réalité et les femmes migrantes doivent avoir un nouveau traitement par rapport donc aux réponses que l'on trouve à ce niveau pour tous les secteurs de travail. Et ceci par rapport à ces différentes normes. Et je vous remercie une fois de plus pour votre attention. Merci beaucoup pour votre participation. Et nous devons adapter donc notre horaire pour avoir la séance de clôture à midi. Donc, je vais demander à Madame Alice Frat si elle peut parler après la séance de clôture. Ce n'est pas vraiment une séance de clôture, des cérémonies de clôture, mais si elle peut prendre la parole après. Et la participation des délégations au débat sera après la séance de clôture. Nous allons donc reprendre la séance à midi et après cela, nous allons continuer notre travail. Merci beaucoup pour votre compréhension. Et je suis désolé à Madame Alice Frade, je lui présente toutes mes excuses.